La partie publique du mariage est donc désormais terminée. Une réception se termine à Buckingham Palace. Elle devrait se terminer dans la demi-heure qui vient. Puis ce sera le dîner ce soir, là encore à Buckingham Palace, avec seulement 600 invités. Et la soirée dansante, 300 invités triés sur le volet. Pas d'accroc ici à Londres. Tout s'est bien passé pour ce mariage historique.
Merci Franck Badevant en direct de Londres et on va maintenant pouvoir passer à autre chose.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Stéphanie Duncan.
Ce soir, c'est en Polynésie que je vous propose de partir, sur les pas de Victor Segalen, le médecin de marine breton devenu écrivain après sa découverte de Tahiti en 1903. Un choc sensuel et spirituel qui lui inspira son chef-d'œuvre, Les Immémoriaux. À ce soir, 21h, France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Allô Marina, est-ce que tu peux me rappeler sur mon portable dès que tu auras écouté mon message? Bon, je t'explique, il m'arrive une tuile là. Je t'appelle de Londres, d'une cabine de Londres. Voilà ce qui s'est passé. Ce matin, on attendait avec Pascal Pascariello et François Ruffin pour entrer dans Westminster Abbey pour le mariage. Bon. Et puis, brusquement, j'ai cru voir passer Diana. Mais non, je parle pas de Lady Diana. Je suis pas fou, je crois pas aux apparitions. Non, Diana, la seule qui existe pour moi. Diana Rigg, Madame Pell, de chapeau melon et bottes de cuir. Alors, je l'ai suivie et puis j'ai fini par la perdre. Elle m'entraînait jusque dans ce parc, tu sais, où Antonioni a tourné Blow Up. Et là, je l'ai perdu. Puis alors, j'ai vu l'heure, je me suis dit, bon, il faut que je revienne vite. Et quand je suis revenu à Westminster, Pascal et François étaient déjà rentrés. Alors j'ai voulu les appeler sur leur portable. Or, j'avais noté leur numéro sur le carton d'invitation pour le banquet du mariage. Et j'ai paumé le carton pendant que je poursuivais Madame Pell. Alors, est-ce que tu peux soit me rappeler pour me redonner leur numéro, soit les appeler toi-même pour leur dire de m'appeler et me fixer un lieu de rendez-vous à la sortie de la messe. Un endroit sûr, hein, parce que y a du monde, je te dis pas. Je compte sur toi, Marina. Hein. Marina, you are needed. Ça veut dire, Marina, on a besoin de toi. Bon, en plus, tu me rappelles vite. Hein. Oh, pourvu qu'ils aient pas éteint leur portable dans l'abbaye. Ah putain, j'avais pas pensé à ça.
Ouais, bonjour à toutes et tous, là, moi ils commencent à me gonfler avec leur mariage princier, là, moi je voudrais juste rappeler le truc suivant, vous savez c'est quoi la première cause de divorce? Bah justement, c'est le mariage. Allez, ciao à tous, Guillaume, sans alliance.
Le maire de Bagnoul-sur-Mer, Jean Red, a fait voter mardi 26 avril par son conseil municipal une délibération l'autorisant à dénommer le rond-point à l'entrée du village, rond-point du général Marcel Bijard. L'inauguration est prévue le 15 mai. Si la honte et l'indignation des administrés ne parviennent pas à le faire revenir sur cette décision, une vidéo enregistrée lors de ce conseil du 26 est en ligne sur YouTube Bagnouls Info. Elle est à visionner absolument, elle témoigne des pratiques en usage dans cette localité. Pour nous contacter, pour se joindre à nos actions, vous avez un mail sud du sud, tout attaché, @wanadou.fr. À bientôt.
Ouais, bonjour Daniel et bonjour toute l'équipe de là-bas si j'y suis. C'est Régis en direct de son camion. Donc je viens de repasser en France là et j'arrive d'Italie avec à bord de mon camion 25 tonnes de tomates que j'ai chargées hier dans cette fameuse région au pied du Vésuve là entre Naples et Salerne. Donc je voulais simplement apporter un témoignage pour dire que en tant que maillon de la supply chain, c'est-à-dire l'engrenage qui permet aux gens d'avoir les produits plus ou moins voulus dans leur caddie. En tant que maillon, je peux témoigner que partout où je vais, je vois ces travailleurs sans papier, ces travailleurs exploités. Et partout où je vais, même constat, partout où on a besoin de bras, on va les chercher de plus en plus loin, du moment qu'ils ne coûtent pas cher. Et malheureusement, en plus des bras, on a des gens tout entiers, quoi, et parfois on est obligé de leur mettre une gamelle d'eau pour qu'ils puissent vivre, comme dans cette fameuse région du sud de l'Italie. Donc je voulais vous remercier pour la qualité de vos émissions, en espérant qu'elle éveille les consciences, qui me fait un peu de soucis, ne serait-ce que pour mon métier, en tant que conducteur routier, bah, je suis directement soumis à la concurrence déloyale, entre guillemets. Et bon, je sais pas trop quoi faire pour que ça change. Enfin, voilà. Merci encore, à bientôt.
Alors, je suis en train d'écouter l'émission de Daniel là, sur la basse Italie, là. Hein. Je me demande à ces gens qui sont allés travailler dans le pays, la région la plus pourrie d'Europe. Hein. En bas, les grands chefs, c'est les trois mafias. La Ndrangheta, la mafia et la Camorra. Plus, il faut ajouter le Vatican, ça fait quatre mafias qui sont vraiment la lie de toute l'Italie, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre dans un pays pareil? C'est encore pire que de rester dans le Maghreb. Hein. Merci, au revoir.
Bonjour Daniel et toute l'équipe, merci pour vos émissions. Je vous informe que samedi 30 avril à 15h, il y a une grande marche pour la transparence sur le nucléaire. L'événement débutera place de la Bastille sur le terre-plein de l'Arsenal pour s'achever place du colonel Bourgoin devant l'ASN. Une tribune au départ de la marche donnera la parole aux intervenants des associations Éco-échange France-Japon sur la crise nucléaire au Japon, la CRIRAD pour une prise de parole pédagogique, les enfants de Tchernobyl Bélarus sur le rapport OMS-AIEA, l'Association française des malades de la thyroïde pour une lettre au président de la République et un sous-traitant sur les conditions de travail dans les centrales nucléaires. Le drame que vit le Japon rappelle cruellement que le nucléaire est entouré de secrets, sous couvert de l'expertise et de la haute technicité. Donc le réseau Sortir du nucléaire Paris demande solennellement une transparence totale sur le nucléaire et appelle donc tous les citoyens, associations, militants et partis politiques à se retrouver place de la Bastille pour obtenir cette visibilité. À très bientôt, en tout cas à samedi, nombreux je l'espère.
Voilà, merci pour tous ces messages, chers AMG. Bon, oui, 2 milliards d'êtres humains qui sont en train de regarder le mariage princier. Oui, 2 milliards, mais ça fait même pas un tiers, ça, de l'humanité. Hein, même pas un tiers, quoi. Ils sont minoritaires, en fait. Et nous, c'est aux autres qu'on va s'adresser aujourd'hui, dans la base, si j'y suis, c'est-à-dire à la majorité. À la majorité, pour lui dire que s'il y a des princes et des princesses de l'autre côté de la Manche, il y a ici des présidents, et le futur président de la République, ce sera DSK. DSK, c'est exquis. Et oui, c'est ce qu'on dira dans quelques mois. DSK, c'est exquis. Et voilà, Tipa, qu'il y a une poignée d'extrémistes pour le poursuivre, notre futur président, pour le poursuivre devant quoi donc ? Le tribunal des condamnés d'avance. Alors venez défendre la gauche de droite. Ce tribunal se tiendra au théâtre de Jazet ce lundi 2 mai à 20h. Vous le savez, évidemment, en 2003, c'était Jacques Chirac, en 2005, Nicolas Sarkozy, en 2006, Bernard-Henri Lévy, en 2008, Bernard Kouchner, qui ont été présentés devant ce tribunal des condamnés d'avance. Et bien, cette fois-ci, ce sera DSK soi-même au théâtre de Jazet, donc ce lundi 2 mai à 20h. Avec une pléiade de vedettes et de défenseurs, bien sûr, de DSK. Pour réserver auprès du théâtre, notez bien, 01 48 87 52 55. 01 48 87 52 55. Vous pouvez les appeler tout de suite, mais ils vont pas vite, les gars. Ils prennent les réservations les unes après les autres. Donc, soyez un peu patients. 01 48 87 52 55. Et puis, pour les autres, on se retrouvera donc lundi à 20h, le théâtre de Jazet, c'est 41 boulevard du Temple à Paris, dans le 3e arrondissement, métro République. Alors il y a, ah, ça c'est très important, une remise de 50% sur présentation de la carte d'adhérent au Parti Socialiste. Lundi, nous partons pour le Japon, Fukushima, Hiroshima, une série de reportage où il sera question, évidemment, vous vous en doutez, de nucléaire et de tsunami. Mais là, on va aller dans une centrale nucléaire tout près de chez nous, en Bretagne, avec Antoine Chao. Alors, vous savez, il y a des énergumènes qui veulent absolument sortir du nucléaire. Oui, mais comment on fait pour sortir du nucléaire? Et comment se débarrasser de ces centrales nucléaires? Comment les démanteler, ces centrales nucléaires? Nos voisins allemands font les malins en disant « on arrête tout ça, on va démanteler ». Oui, on est très fort, nous, vous savez, en France, hein, on a l'EDF, on arrive à en fonder les meilleurs en matière de nucléaire. Eh bien, vous allez voir que pour démanteler une centrale, c'est pas du gâteau. Bienvenue donc à la centrale nucléaire, c'est notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut auditeurs engagés de là-bas si j'y suis. Comme on se sent parfois un peu seul au monde à s'indigner, c'est quand même bien de partager des idées et des actions avec d'autres qui luttent. Et pourtant, c'est pas toujours facile de trouver tous ces camarades dont les forces sont parfois dans un comité de quartier luttant contre une expulsion ou encore dans un collectif d'attaque, des amis de la terre, dans un café repère ou que sais-je encore. Alors comment faire pour trouver toutes ces réunions, ces manifestations, ces idées, ces gens qui luttent tous les jours avec qui on partagerait bien quelque chose ? Eh bien à Paris, mais aussi à Toulouse, à Bruxelles, en Ariège, en Gironde, à Montpellier, à Angers et à Marseille, il y a Démosphère. C'est un agenda participatif sur Internet où tu pourras non seulement retrouver les événements militants de tout poil de ta ville ou de ton département, mais aussi en proposer toi-même. Voilà, c'est sur Démosphère et c'est sur Internet. Auditeurs de tous les quartiers, rassemblons-nous.
Douce France, cher pays de mon enfance, tu parles. En France, en 2011, on rafle les immigrés, et pour ce faire, on les rafle sur les lieux où leur sont servis leurs repas par une association caritative. Ça me fait penser à un truc. Vous savez comment on chasse les animaux en Afrique ? Très simplement, on se poste à proximité du point d'eau, et on attend qu'ils viennent. Certains trouveront la comparaison osée, moi pas tellement. En tout cas, c'est mon opinion et je la partage. Ah, douce France. Bref. Bon courage à tous quand même.
Voilà, on est dans les monts d'Arrée, en Bretagne, dans le Finistère. En face, le réacteur nucléaire de Brennilis qui a été mis en service en 67 et arrêté en 1985, donc 26 ans maintenant, et qu'EDF essaye de démanteler et s'en servir comme vitrine du démantèlement, mais ça ne se passe pas si facilement que ça.
Il y a des risques donc avec le nucléaire. Est-ce que le nucléaire est toujours une énergie d'avenir ?
LCI, 14 mars 2011.
Mais il y a des risques avec toute activité humaine et a fortiori avec toute activité industrielle.
Éric Besson, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique.
La France, comme beaucoup d'autres pays, mais la France peut-être plus que d'autres pays, simplement essaie de prendre toutes les précautions.
Quand j'ai été contaminé, ils m'ont mis un compteur Geiger sur la poitrine. Et hop, l'aiguille est partie en butée. On dit alors, quand est-ce que je vais crever, quoi, quel risque j'ai ? Tu pèses combien ? 60 kilos. Bon, bah, tant de picocurie divisé par tant de kilos, ça fait... tu risques rien, tu es en dessous de la norme. Et en fait, mon œsophage, puisque c'était dans l'œsophage que ça se trouvait, il pesait pas 60 kilos. Hein.
Nous avons une autorité de sûreté nucléaire qui est considérée comme la plus exigeante au monde.
Donc il fallait pas diviser par 60, mais par quelques grammes. Voilà. Et là, peut-être que c'était pas inoffensif.
Et chaque fois qu'il y a un incident, c'est communiqué.
Ouais, j'ai demandé mon dossier médical. Il y a 4 mois, je l'ai eu. Et j'ai 2 ans dessus sur les 30 ans. J'ai que les 2 ans de Pierre Latte à Brennilis. Rien. Ils l'ont perdu. Et sur les 2 ans, j'ai trouvé des traces d'uranium dans les urines, dis donc. Ils m'avaient jamais rien dit.
Oui, l'industrie... Il y a un risque, mais c'est aussi ce qui apporte le progrès, le confort. Et pour le nucléaire, le gouvernement français fait preuve d'une transparence absolue.
Alors EDF, voilà, on est devant. EDF cite des monts d'arrêt, centre d'information du public, le fameux CIP. Heure d'ouverture, le mercredi de 9h à 12h, de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Renseignements 02 98 99 69 06. CIP Brennilis@edf.fr. Bon, bah, tentez votre chance, hein, vous aurez peut-être plus de chance que moi.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao.
Bienvenue à la centrale nucléaire.
Transparence absolue. Arriving from
Bonjour, je suis au CIP de Brenelis, au Centre d'information du public de la centrale de Brenelis. Je vous appelle pour les visites pendant la semaine de l'industrie. Donc j'ai vu une annonce dans le Télégramme qui annonçait des visites donc, de la centrale en démantèlement.
Alors malheureusement, toutes nos visites sont complètes.
Parce que moi j'avais lancé une demande par internet sur votre site avant le 18.
Alors vous êtes monsieur ?
Chao, Antoine.
C'est vrai qu'on a été très, très vite complet.
J'imagine, là, c'est... parce que c'est vraiment la question du démantèlement là, des centrales qui se pose.
Oui, oui, ouais, c'est vrai. Bah alors, je pense que si on ne vous a pas confirmé, c'est que c'était déjà complet. C'est vrai que comme on a eu beaucoup, beaucoup de demandes, on n'a pas eu le temps encore de faire tous les mails pour proposer aux gens de les mettre sur liste d'attente.
Alors, mais peut-être qu'on peut faire des demandes différentes quand il s'agit de la presse, quoi, parce que je suis journaliste, donc peut-être que par le service de presse...
Alors, je sais qu'il y a... Je ne peux pas vous dire avec certitude, mais on va peut-être organiser une journée presse avant la semaine de l'industrie, justement.
Ah, très bien.
Donc à ce moment-là, peut-être que éventuellement ça serait possible. Bah écoutez, je vais voir ça avec mon collègue parce que c'est lui qui s'occupe de la journée pour la presse et puis on vous tient au courant au plus tard début de semaine prochaine.
Formidable.
Lundi ou mardi. Voilà.
Au revoir, bonne journée.
Au revoir, bonne journée.
Les ténèbres, à peine trouvées de quelques pauvres lueurs. Le vent, le froid, la nuit, une silhouette squelettique, une tête de gargouille qui émerge de l'obscurité, un mendiant édenté. Puis à nouveau la nuit. Et oui, vous avez reconnu. Nous sommes en Allemagne dans 20 ans. L'Allemagne qui a cru devoir sortir du nucléaire. L'Allemagne revenue à l'âge de la bougie et de la lampe à huile. Eh ben, nous, ça nous arrivera pas. À nous, les Français, champions du nucléaire. Tchernobyl, bah oui, mais c'est chez les Ruskov. Fukushima, c'est chez les Japonais. Three Mile Island, c'était les Américains. Nous, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Nous, on est Français.
La France peut-elle se passer du nucléaire ?
Elle pourrait éventuellement se passer du nucléaire, à condition d'accepter de s'éclairer à la bougie, d'arrêter ses usines, de revenir au Moyen-Âge.
Mais oui, il a raison, Jean-Marc Sylvestre. Il n'est pas seul à penser ça. Il n'est pas seul à le dire. Et maintenant, autre chose, évoquons un déjeuner sur l'herbe. Quoi de plus agréable qu'un déjeuner sur l'herbe? La nappe qu'on déplie, les victuailles, le saucisson, le cidre, la sieste. Crapuleuse, peut-être. Quoi de plus agréable que ce petit plaisir est quoi de plus simple? Eh ben, pour les gens du coin de Brenelis, c'est un horizon formidable. C'est impensable pour l'instant. Ça ne se réalisera peut-être pas, peut-être jamais de leur vivant. Ils en rêvent de manger sur l'herbe, de déjeuner sur l'herbe. Les habitants de Brenelis, au temps du déjeuner sur l'herbe, de la toile de Manet qu'on vient admirer. Hors de cette toile, autour, dans Paris, en Europe, partout en Occident, les scientifiques, les savants avaient des grands projets de marcher sur la Lune, on l'a fait, de descendre au fond de la mer, on l'a fait, de produire industriellement des quantités de choses, on l'a fait, on l'a fait. Et maintenant, le dimanche, en famille, on va regarder une peinture avec des gens qui déjeunent sur l'herbe. Et c'est devenu un rêve, et c'est devenu une utopie, un horizon, déjeuner sur l'herbe. C'est le rêve des habitants de cette bourgade de Brenelis dans les Monts d'Arrée, où nous allons avec Antoine Chao, où une centrale nucléaire a été construite en 1967, inaugurée en 1967, un réacteur de 70 mégawatts. L'EDF s'est aperçu que c'était pas rentable. Bon, très bien, alors on l'a arrêté en 1985. C'est pas d'une très grande beauté dans ce paysage, une espèce de gros bloc cylindrique de 56 mètres de plus haut, si vous connaissez les monts d'Arrée, voilà, c'est là, c'est Brennilis. Alors on a commencé à la démanteler, cette tour, on a fait ça à moitié. On a fait ça à moitié, l'EDF, on est prudent, hein, vous avez vu la sûreté, oh là 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 là, ça c'est le plus important, c'est la sûreté. Mais quand même, il y a ces emmerdeurs d'anti-nucléaires qui ont réussi à influencer le Conseil d'État pour que le démantèlement soit suspendu. C'est des gens qui n'ont pas le sens du risque. Ce que vient de nous dire Éric Besson, dans toute activité humaine, il y a des risques. Eh bien, ces gens-là ne veulent pas prendre de risques. Ils arrivent à se faire soutenir par le Conseil d'État. Mais ça va peut-être repartir, hein, on va peut-être y arriver. C'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça que Antoine Chao a essayé de se documenter, de s'informer pour lui et surtout pour nous, les auditeurs et les Françaises et les Français et toutes les habitants de cette planète. Parce que ce qui est embêtant avec la nucléaire, c'est que ça ne se limite pas aux frontières. Si ? Ah bon ? Mais alors, on va essayer d'en savoir plus d'ici à 16h sur France Inter dans la base. Si j'y suis, bienvenue à la centrale nucléaire.
Bienvenue à la centrale nucléaire. Notre visite guidée a pour but de démontrer que l'énergie nucléaire est sans danger.
Veuillez revêtir votre combinaison synthétique et vous munir de votre badge magnétique.
La régulation de la masse critique s'effectue par servo-contrôle automatique. Toutes les commandes atomiques sont gérées par énergie quantique.
Une petite fuite s'est déclarée à proximité du réacteur 2C.
Pour le moment, il n'y a aucun danger. Vous allez tous être contaminé.
Le voltage 909 est surchargé. La fission n'est plus contrôlée.
Inutile de paniquer. Vous n'avez plus le temps d'évacuer.
Brennilis. Un petit bourg au cœur même de la région désolée des monts d'Arrée.
ORTF, 16 avril 1966.
Une herbe rase, quelques touffes d'ajon recouvrent les pentes dénudées qui descendent vers le lac. Au loin, la vénérable chapelle qui coiffe le mont Saint-Michel de Braspar. Image enfuie, car sur un autre sommet, celui de Roc Trédudon, la fine aiguille de l'antenne de l'ORTF, signe des temps modernes, le progrès est venu, et ici même à Brennilis, longtemps figé dans son passé, se préfigure l'avenir. La construction d'EL4, la centrale nucléaire des monts d'Arrée, s'achève. Mais qu'en pense-t-on dans le petit bourg breton ?
C'est un coin exceptionnel quand même ici.
Oui, vous trouvez ? Moi je trouve aussi.
On surplombe tous les monts d'Arrée et quand on est ici à Trédudon, là c'est un petit hameau ici, c'est ça ?
Oui. On appelle ça, c'est un village. En Bretagne, c'est ça qu'on appelle un village.
Et quand on est ici à Trédudon, et notamment au col, on voit au loin Brennilis, la centrale.
Oui.
Voilà.
Ça, elle est visible de partout.
Il est question de le démanteler, et c'est pas si simple, quoi.
Hein. Apparemment, non.
On sait les fabriquer, mais on sait pas encore vraiment les démanteler.
Apparemment, c'est très compliqué, non. Ça nous inquiète. On se demande pourquoi ils se précipitent à vouloir démanteler tout de suite, alors que si on la laisse tranquille, la radioactivité va diminuer à l'intérieur et puis on se donne le temps de réfléchir au démantèlement. Parce qu'on a quand même quelques réacteurs à démanteler en France. Hein.
Vous préférez que cette centrale reste là, qu'elle termine sa vie radioactive là, et plutôt que d'aller polluer un autre endroit, c'est ça? Vous êtes prêt à la garder près de chez vous, près de votre petit paradis là, des monts d'Arrée?
De toute façon, elle est là. Tant qu'il n'y a pas de solution pour les déchets, autant qu'elle reste là. C'est pas la peine de la transporter d'un endroit de la France, puis de la retransporter quelques années plus tard à un autre endroit.
Vous êtes à quoi? À quelques kilomètres donc de la centrale de Brennilis?
Ben oui, à vol d'oiseau, je suis à 5-6 kilomètres.
Voilà, Antoine Chao a trait du don avec Bernadette l'Alouette. Vous entendez d'ailleurs les petits oiseaux autour de nous, c'est quand même bien. C'est pas si facile hein, ce qu'on vient d'entendre là. Ah oui, parce que quand on va autour des centrales nucléaires en France et qu'on va voir les habitants, alors on leur dit, dites donc, qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça au pied de la centrale? Oh, ça va, vous savez, non, c'est pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de problèmes et... Mais il pouvait tout à fait rencontrer quelqu'un qui lui dit la centrale, mais quelle centrale? Oui, parce que il faut aux alentours des centrales, très souvent, bon, d'abord la centrale fait vivre parfois les gens, il y a des emplois, il y a des retombées, pas radioactives mais économiques. Ou un petit peu radioactif, mais enfin, ça, bon, là, là, faut prendre des risques, hein, parce que disait Monsieur Besson, Éric Besson. Mais il y a surtout que ces petites municipalités autour, c'est des belles routes, des beaux ronds-points, des belles piscines municipales, un tennis. Voilà, l'EDF sait être généreuse avec ses amis, qui sont, ça rend les gens compréhensibles. Si bien que c'est pas facile de trouver des opposants ou des gens simplement lucides. C'est pas si facile.
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Antoine Chao, je suis journaliste à l'émission Là-bas, c'est j'y suis sur France Inter.
Oui.
Et j'ai appelé au CIP Brennilis
la semaine dernière.
Il y a 10 jours, oui, pour faire une visite.
Donc... D'accord. Alors, moi, j'avais transféré ça à la personne qui s'occupe de la communication. Et normalement, c'est eux qui doivent vous rappeler.
Ah.
Ça se passe pas au niveau du site. Par contre, ce que je peux faire, c'est rappeler, et puis pour voir où est-ce que c'est parti entre guillemets, et puis pour qu'ils vous disent de vous rappeler.
Mais je comprends pas parce que bon, déjà j'avais fait une demande pour faire une visite publique.
Entre le 5 et le 9, oui.
Alors ça, j'avais fait une demande à titre personnel, donc sans matériel de travail, et j'ai pas eu de réponse non plus.
Oui, c'est normal parce qu'on a été il y avait beaucoup de demandes à traiter. Mmh. Donc c'est pour ça. Et donc après, le temps qu'on envoie les mails pour dire que c'était complet, c'est pour ça que ça n'a pas été fait immédiatement.
D'accord.
C'est pour ça.
Mais quand Henri Proglio prône une transparence, une responsabilité, etc., c'est quand même inquiétant que EDF ne soit pas capable de répondre à quelques mails. Je me réfère à l'article qui est paru dans le journal Le Monde, donc daté du 19 mars. Signé donc Henri Proglio sur la sûreté des installations, notre obsession. Alors c'est dans la page débat et donc la lettre d'Henri Proglio, donc PDG d'EDF, termine « Pour l'heure, les Français légitimement inquiets devant les images de la catastrophe qui frappe le Japon attendent de nous de la responsabilité et encore plus de transparence. Nous leur devons, nous les leur donnerons. »
Oh bah écoutez, ça après je vais pas, enfin voilà, moi j'ai pas à m'exprimer entre guillemets là-dessus, donc là faudra voir avec la personne qui vous recontactera au niveau d'EDF.
C'est pas pour cette fois-ci la transparence donc.
Voilà, moi je vous dis, moi j'informe EDF et puis les personnes et puis je leur dis que vous avez rappelé.
D'accord, je vous remercie.
Il y a pas de quoi.
Au revoir.
Au revoir.
Je crois que on peut garder à l'esprit.
RTL, 16 mars 2011. Henri Proglio, PDG d'EDF.
D'abord, la conviction que le nucléaire est très techniquement complexe et qu'il ne faut jamais oublier les règles de sécurité essentielles. On vit dans le nucléaire avec l'obsession de la sécurité. C'est le cas chez EDF. C'est enfin une industrie très, évidemment, contrôlée et très transparente.
Alors voilà, on est devant l'INB 28, l'installation nucléaire de base numéro 28, appelée plus familièrement l'EL4, hein, c'est ça, comme le réacteur EL4 à eau lourde numéro 4, donc le quatrième du nom, qui a été installé ici à Brennilis, sur le bord du lac Saint-Michel. Alors Michel Marzin, vous avez travaillé ici à cette centrale, hein, vous étiez... technicien, c'est ça?
Oui, enfin moi je ne l'appelais pas comme ça, c'était le site des Monts d'Arrée qui devait contenir deux centrales nucléaires. Un prototype industriel qui est EL4,
EL4 comme au Lourdes, qui est à gauche, là.
Donc une petite chapelle, hein. On n'est pas en face d'une grande cathédrale de la filière électronucléaire française, là.
Oui, enfin, au point de vue dimension, ça ne change pas grand-chose, mais au point de vue puissance, oui. Là, il y avait, il sortait entre 60 et 75 mégawatts électriques, et les nouvelles centrales, comme tu dis, elles font entre 1000 et 1100 mégawatts électriques. Donc, ça n'a rien de commun, oui.
Vous avez participé à cette épopée industrielle, et aujourd'hui, vous êtes assez sceptique, critique.
Disons que j'ai évolué. Hein. À l'époque, oui, quand on est arrivé là, on voulait montrer que les Bretons étaient capables d'être à la pointe, d'avoir une machine très sophistiquée et de la dompter, de la domestiquer et de produire de l'électricité à partir de l'uranium. C'est sûr, on était une centaine au CEA et à l'époque 60, 70 à EDF, hein, puisque le CEA s'occupait du nucléaire et vendait la vapeur à EDF qui faisait de l'électricité derrière. On venait d'un peu partout, hein, Marcoule, Saclay. Pour la plupart, on avait déjà travaillé au CEA et on revenait au pays faire le métier que l'on croyait savoir faire, oui.
Donc ici, c'est chez vous, vous êtes breton ?
Mes grands-parents avaient une ferme à côté de Morlaix, à 7 km de Morlaix, donc je suis chez moi, oui.
Alors EL4, quoi, la centrale de Brennilis, qui pose problème, disons, parce que ça devrait être la vitrine du démantèlement des centrales, et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, quoi, le démantèlement, que ça pose problème aujourd'hui.
Quand je suis arrivé ici, on m'a dit « tu feras probablement une grande partie de ta carrière ici », et puis EL4 continuera pendant un siècle et demi après à exister. Le cœur ne sera pas démantelé, on m'a expliqué les raisons, hein, parce qu'il est en inox, et donc il va être irradié, il y aura du cobalt dont la période est une douzaine d'années, et la décroissance fait qu'il n'est pas raisonnable de s'approcher du cœur avant un siècle et demi, c'était ce que disait le CEA, et ce qu'il dit toujours d'ailleurs, je crois.
Combien d'années vous avez travaillé ici à Brennilis?
Donc j'ai passé 30 ans au CEA, dont 28 ans à Brennilis. J'avais passé 2 ans auparavant à Pierrelatte. J'étais électronicien donc d'aéronautique. Je venais juste de me marier, donc il fallait que je trouve du travail. Et Pierrelatte démarrait. J'avais des copains hein, qui y étaient allés, qui m'avaient dit « tu verras, c'est parfait, c'est propre, c'est l'avenir, viens avec nous ». Donc je les ai suivis à Pierrelatte. C'était l'usine d'enrichissement de l'uranium qui démarrait pour faire des bombaches. Hein. Quand j'y ai travaillé, il y avait l'usine basse, le début, qui tournait déjà. Moi, j'ai fait le démarrage de l'usine moyenne et ensuite, il y avait une usine haute et une usine très haute qui débouchait sur de l'uranium enrichi, très enrichi en uranium-235 pour faire des bombes. Hein. Et au bout de 2 ans, Pierrelatte, c'était quand même une très grosse usine, très militarisée, hein, très fliquée. Je ne m'y sentais pas à l'aise du tout. J'avais eu 1 ou 2 accidents de contamination. Et Brennilis s'ouvrait au pays. Donc j'ai dit, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. Et je suis venu avec les autres copains démarrer Brennilis.
Il y a vraiment une distinction entre les deux filières, la filière militaire et la filière civile.
Oh, on ne peut pas dire ça. Tout ça, ça se mélange. Hein, parce que Brennilis, par exemple, était une centrale à eau lourde. On ne nous avait montré que l'électricité qui sortait. Mais en fait, il y avait une colonne à distiller sur le côté qui sortait le tritium en excès dans la pile. Et on sait que le tritium... On sait maintenant que le tritium, c'est le détonateur des bombaches. Donc il y avait probablement une double production. Et les Iraniens sont en train de construire l'équivalent de L4 actuellement, probablement pour avoir du tritium frais, puisque la période du tritium est quand même relativement courte. Et il faut de temps en temps renouveler les détonateurs des bombaches. Donc il y a toujours, autour du nucléaire, il y a toujours le militaire qui se promène un petit peu.
Donc même ici à Brennilis, il y avait aussi un intérêt militaire à ce que cette centrale existe et produise donc du tritium.
Théoriquement, on sait produire du tritium en dehors d'un réacteur, mais on constate que tous les pays ont fait des eaux lourdes pour avoir du tritium frais facilement et constamment sous la main. Donc la France avait sans doute cette arrière-pensée aussi.
Depuis qu'on parle de l'hiver nucléaire, pour les hommes. Est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de l'automne? Méfions-nous, l'empire de la thune veut encore exploser l'atome. Ils craignent les énergies qui coûteraient 3 centimes. Au début des 60s, les USA ont poussé la France à d'y laisser. Contrat de nucléaire civil soit des centrales au grand jour et la bombe en secret. Alors ici encore on fait des watts avec, même si c'est un gouffre économique. 300 milliards de subventions publiques pour terre et rien pour l'écologique. Leur but est de vendre des trucs à neutrons, faire croire que c'est propre. Les crétins vont croire qu'on a dompté les protons. À travers les plaines de l'Hexagone, il y a encore 58 réacteurs d'échappes fêlées pesant 10 000 tonnes. Des incidents presque tous les jours arrivent au Niger dans ces mines d'uranium. Contaminent les villages sans que des gars l'analysent. Sur nos routes, on envoie des convois de plutonium. Nos voies niquées des régions dans des camions qu'on banalise. Et même si les trois quarts de l'Europe stoppent, que le monde entier attend qu'on démantèle, ils font le PR et les ouvriers se tapent des journées de ouf au cœur des centrales. Désolé pour ta confiance, ta précieuse insouciance. L'endroit le plus dangereux du globe et peut-être en France. 60 000 tonnes de déchets par an. On enterre les outils, les machines irradiées. On enterre les combinaisons, les gants pollués. On enterre plus de place à l'ague, alors dans l'aube. On enterre et ces abrutis osent dire que leurs sarcophages sont sûrs que durant plus de 20 millions d'années ça va tenir. On laisse le problème à nos arrières, 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 petits enfants. Le seul pays au monde autant équipé nucléaire et le plus grand consommateur en antidépresseurs. Désolé, le tableau est bien sombre, mais il est clair qu'il faut le dire et vite enfin sortir du nucléaire.
La vitrine du démantèlement, voilà ce qu'est devenu la centrale de Brennilis en Bretagne, sur les monts d'Arrée. On avait construit cette centrale en 1967. Oh, puis on s'est dit, tiens, mais elle, c'est pas rentable. Oh, ben, qu'est-ce qu'on va en faire? On était embêtés. Oh, on a eu une idée. C'était d'en faire la vitrine du démantèlement. Et c'était une expérience intéressante parce qu'on ne l'avait jamais fait. On a construit des centrales sans savoir du tout comment on peut démanteler ces choses-là. Et on en a pas mal à démanteler maintenant. On en a une 58 réacteurs atomiques français, qui est beaucoup plus gros que celui-là, qu'il va falloir démanteler, mais on ne sait pas très bien comment faire. Voilà, là on en est à la moitié du démantèlement. Il y a ceux qui sont partisans de continuer, ceux qui sont opposés à poursuivre ce démantèlement, parce que ben voilà, c'est peut-être un petit peu dangereux. Donc ça se partage, ça se divise, et surtout ça se raconte avec Michel Marzin, un ancien technicien de la centrale de Brennilis, qui est à la retraite aujourd'hui, il a 73 ans. Vous allez voir cette discussion-là qui va s'installer avec un vieux copain, lui, qu'il retrouve, un ancien mécano de la centrale, Jean-Michel.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Marzin.
Ah, salut.
Ça va?
Pour l'instant, ça va, comme disait l'autre, et toi, t'as l'air en pleine forme, là.
Vous êtes ancien collègue, c'est ça?
Ouais. Il y a combien de temps que t'es en retraite, toi?
Et 6 ans.
6 ans? T'étais à EDF, toi, ouais.
Bientôt retour à l'herbe ou pas, alors? Vous pensez quoi?
Le dôme, là, je crois pas qu'on le verra raser, nous, je crois pas.
C'est ton point de vue aussi? C'est ce qu'on nous disait, d'ailleurs, quand on est arrivé pour travailler. Moi, on m'a toujours dit, le cœur restera, mais c'est tout.
Ouais. Vous envoyez une équipe de taggers, là.
Ah ouais? Ils ont de quoi travailler,
ben, ils ont eu de quoi faire, là.
Ouais, le pain.
Quelle couleur?
Je sais pas, ils auraient pu mettre des oiseaux, des machins, etc.
Mais ça rayonne un peu encore, le dôme, ou pas?
Non, le plus dangereux, il y a eu des gens qui sont mortaux, hein, ici, autour du Helgoat, par contamination. La contamination, ce qu'on respire ou ce que l'on ingère, qu'on a dans la paillasse, et après qui fait des dégâts. T'as été contaminé, toi aussi, non? Ouais, toi aussi, ouais. Ouais. On en a tous pris, de toute façon, un jour ou l'autre, on avait beau faire gaffe.
Et donc des collègues à vous sont morts?
Il y a des gens qui sont morts plus tôt.
Mais moi, je voulais pas me bosser avec un mec, c'était avec un autre.
Avec Maurice, ouais, c'est le premier qui est
un kamikaze.
Ouais.
C'était un kamikaze,
ouais. Ben, je le voyais, il y avait une alarme, mais il arrêtait, et puis on rentrait dedans, et ben...
Ouais, t'étais mécano, toi aussi.
Oh ben, la merde, je dis, ben, je vais pas aller au suicide, quand même. Hein.
Mais tu sais que les patrons nous disaient le tritium, l'eau lourde, ça a une faible activité, et donc le risque existe, mais il n'est pas très fort, quoi. Et des gens comme Maurice l'ont cru.
Ah oui.
Ils allaient là-dessus comme si c'était de la flotte, quoi.
Ah oui.
Il y a du boulot à faire, t'es emmerdé, et tu te dis, je vais le faire vite, comme ça je prendrai pas beaucoup, et puis tu en prends plein la gueule.
Ouais, ouais.
Ouais, c'était ça.
Ah
hein.
Oui,
Oui, ça m'est arrivé
aussi.
Ah oui, il
y a eu des... Certains jours, on en prenait.
Ah ouais, ouais, ouais. Après, on pissait. Pendant combien de temps tu as pissé après?
L'infirmerie.
Et même quand il y avait des alarmes, il y avait déjà 10 fois la dose maximum admissible. Donc, tu étais sûr que tu avais fait 10 fois le compte quand ça sonnait. Hein? Donc, pour le savoir, tu pissais dans une bouteille et tous les jours, tu ramenais ta bouteille. Ils faisaient un comptage sur la bouteille. Et ils arrivaient à voir combien que tu en avais eu dans le corps. Mais de toute façon, c'était jamais grave. Hein?
Non, non.
Il y a eu toutes sortes de cancers plus rapides que d'autres. La prostate, c'est 10 ans, 15 ans d'habitude. Hein, et là, j'ai un copain, c'était 3 ans, 3, 4 ans, crac, à dégager. Quoi. Il y a eu une accélération du processus. Et très peu de soins. Quoi. Le gars, Maurice, quand il a eu, j'ai attrapé la grande maladie, et puis il savait que c'était fini. Quoi.
À quel âge il est parti alors ?
57, par là, il venait juste de partir en retraite. Juste, il avait 56.
Ah ouais ?
56, ouais. Moi, je l'ai su, il venait juste de partir, quoi. C'est encore jeune, quoi. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on attend chacun notre tour, alors je sais pas. C'est vrai, hein, ça s'est ralenti un peu. Donc, c'était lié, probablement...
Tu parles du tritium, moi, je me rappelle quand on travaillait aux échangeurs, Les stylos dosimètres étaient en butyre, je ne sais pas combien qu'on avait pris.
Ouais. Ben, au début, moi j'ai
on
partagé.
Avec les...
Au début, j'ai partagé avec les mécaniciens, puisque au début, il n'y avait pas de sous-traitants, tu sais. Donc je suis allé aussi dedans, là. Ça montait vite, ouais.
Ah, bah oui.
Ouais, ça montait vite. Donc au bout de
ben,
un quart d'heure, 20 minutes, on te disait, allez, sortez.
Ben, ton stylo était en butyre, je ne sais pas combien que tu avais pris.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et aujourd'hui, vous êtes suivi encore ou pas?
Non.
J'ai demandé mon dossier médical il y a 4 mois, je l'ai eu. Et j'ai 2 ans dessus sur les 30 ans. J'ai que les 2 ans de Pierre Latte à Brennilis. Rien. Ils l'ont perdu.
Donc ils l'ont perdu.
Il n'y a que 2 ans dessus.
Ah ouais.
Et sur les 2 ans, j'ai trouvé des traces d'uranium dans les urines, dis donc. Ils ne m'avaient jamais rien dit. Jamais. Jamais un mot. Mais les boîtes d'intérim qu'on a vues arriver après, alors... Là, c'était rien. Il y a un type qui s'est foutu un disque dans la cuisse. Là, ben, le lendemain, il était à l'hosto et puis on ne l'a plus jamais revu. Quoi. Et moi, quand j'étais contaminé là, avec Loulou, là, il y avait un gars, on était 3 à être contaminés, 2 du CEA et un gars de l'intérim. Et ben, le mec de l'intérim, on ne l'a jamais revu non plus. Hein. Et il y avait le patron qui gueulait. « Ouais, vous avez d'autres traces, vous en aviez pris avant à la hague, vous ne m'avez même pas dit, vous m'avez volé, c'était pas de la viande propre, tu vois un peu le genre. »
Là,
quoi.
Il connaît un peu n'importe qui. Hein. Moi, j'ai eu des méga qui me bossaient avec moi, qui ne savaient pas lire ni écrire.
On intégrait des gars dans nos équipes, quoi.
Bon, ben...
J'ai oublié ton prénom.
Jean-Michel.
Ah, ouais.
Et là, quand vous voyez là, à la télé ce qui se passe au Japon, ça vous fait quoi?
Même c'est une catastrophe, quoi, c'est tout. Quoi. Mais bon, ben.
Mais vous avez craint ça pendant votre carrière, que ça puisse arriver?
Ah oui, c'est les arrêts intempestifs, comme on disait, c'est vraiment chaud, quoi.
C'est toujours chaud. Borderline, quoi.
C'est comme toi, quand tu dis, il y a des endroits, j'avais pas envie d'aller parce que c'était risqué, quoi.
On était jeunes et fougueux, mais...
Allez, bonne journée.
Bon, allez.
Allez, salut Jean-Michel, j'étais content de te voir.
Un de ces jours.
Un de ces jours, ouais. Ouais, c'est un copain.
Notre stratégie, c'est la stratégie du démantèlement immédiat.
France 3, 22 février 2009.
Aussi rapide que possible.
André-Claude Lacoste, président de l'autorité de sûreté nucléaire.
Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ceci se fait très vite. Certains démantèlements peuvent durer 20 ou 30 ans, mais il faut le commencer dès que possible. Et il faut le commencer dès que possible, de façon à pouvoir utiliser la mémoire des personnes qui ont travaillé dans l'installation.
Alors là, la question du démantèlement, là, justement, là, on voit un bras de grue qui s'est élevé le long du réacteur, hein, du bâtiment réacteur. Et il y a un ouvrier qui est tout en haut, là, en train de boucher un trou.
Tu vas être obligé de donner un secret de famille, là. Il sait pourquoi.
Moi, Gérard Bonvon, j'ai aussi participé aux actions qui ont été menées ici sur la centrale de Brennilis. Hein. J'étais professeur de physique et donc motivé par cette lutte, embarqué tout de suite pour justement apporter un peu d'éléments techniques. Quoi. Bon, a priori, je n'étais pas un spécialiste de la physique nucléaire, mais on s'y met vite. Hein. Surtout qu'à l'époque, il y avait des scientifiques vraiment chevronnés dans ce domaine qui avaient constitué le groupement des scientifiques pour l'information sur le nucléaire avec des physiciens nucléaires et c'était assez vite qu'on avait toutes les informations. Quoi. Puis avec des gens comme Michel qui étaient sur le terrain en plus, on complétait tout ça. Donc c'est à cette occasion effectivement.
Alors qu'est-ce qu'il fait là-haut? Alors il y a un ouvrier qui est là-haut. C'est assez haut perché.
Une cinquantaine de mètres, hein, 50, un peu plus de 50.
C'est toi, Michel, qui nous disait qu'elle fuyait quand on voyait des rustines parfois et que vous trouviez les trous en mettant parfum de rose, c'est pas ça?
Tu
nous avais raconté ça.
On injectait du parfum de rose à l'intérieur. On avait des copains qu'on appelait les sniffers qui faisaient le tour. Et donc il cherchait le parfum de rose et quand ça sentait vraiment beaucoup la rose, eh bien, hop, on mettait une rustine.
Une rustine, donc, sur le bâtiment réacteur.
On les voit très bien, oui.
On les voit, on va s'approcher un peu.
On peut imaginer que s'il y a des rustines, il y avait des infiltrations. Donc, tout le béton le long de l'infiltration doit être quand même plus ou moins contaminé, quoi.
Voilà, il est en train de piquer le béton. Il doit y avoir un bout de ferraille. On voit les rustines à côté, quand même.
Comme les sparadraps noirs, là, les petits carrés noirs.
Mais c'est bien, parce que si on veut le laisser encore un siècle, il vaut mieux le maintenir en état qu'il ne s'écroule pas, quoi. qu'il n'y ait pas de fissure.
Oui. Et bon, alors ce qu'on a su assez vite, mais par les informations internes, c'est que dès le début, cette enceinte, elle fuyait.
Alors aujourd'hui, ici, c'est la deuxième manche, quoi. C'est la manche du... Il y a eu la première manche, c'était la construction, donc lutter contre la construction, et maintenant il faut lutter contre le démantèlement, la déconstruction. C'est quand même costaud, quoi. Vous avez fait les deux luttes, alors vous êtes des deux luttes. Donc 30 ans plus tard, c'est ça? Il faut maintenant se battre à nouveau, mais cette fois-ci pour limiter les dégâts, quoi. C'est ça.
Pas faire n'importe quoi.
Voilà, je pense à Michel que c'est plutôt ce qu'il faut dire. On ne peut pas lutter contre le démantèlement des centrales nucléaires parce qu'il faudra toutes les démanteler un jour ou l'autre. Hein. Mais lutter pour que ça se fasse dans des bonnes conditions, proprement, sans risque pour la population, pour les travailleurs qui sont dedans, quoi.
1 000 milliards de dollars. C'est l'ordre de grandeur qui a été donné et qui probablement est sous-estimé encore.
Pour démanteler ce qui existe. Donc c'est une somme incompressible qui sera nécessaire pour aller de l'avant ou arrêter, quoi qu'il arrive.
Il faut provisionner cette somme-là. 1 000 milliards de dollars, on en est loin. Hein. Donc en fait, on reporte sur les générations qui suivent.
Bonjour, le Centre d'information du public de Brennilis. J'avais sollicité une visite de la centrale. Alors là, je suis à Brennilis, j'ai vu qu'il y avait eu une visite presse le 4 avril. Alors je suis quand même un peu déçu de ne pas y avoir été convié. Henri Proglio prenait la transparence, qu'elle était due au public, etc. Donc bon, il faudrait que ça passe aux actes un peu, quoi. Sinon, c'est de la com, quoi. On est dans la com et pas dans l'information. Donc pour un centre d'information du public, ce serait quand même pas mal, quoi. D'accord, merci. Au revoir.
Il est têtu, ce Tchao. Hein, il croit à la transparence, à l'information, à tout ça. Il est têtu, il est un petit peu naïf. Et il rencontre Olivier Herry, l'ancien de la centrale et ancien maire de Brennilis. Olivier Herry.
Monsieur Herry, donc, vous avez été maire de Brennilis.
J'ai été maire pendant 5 ans et demi. Et pendant 5 ans et demi, j'ai eu donc l'après centrale nucléaire, donc la reconversion du site, et cela m'a pris beaucoup de temps. Je venais d'arriver à la retraite après, puisque j'ai travaillé 30 ans dans le nucléaire, dont 8 ans à Marcoule et le reste des 30 années à Brennilis. Et j'ai donc eu la reconversion du site de Brennilis à mon compte, et cela m'a pris beaucoup de temps. J'ai démissionné au bout de 5 ans et demi, parce que je ne voulais pas cautionner l'EDF, la préfecture et les services de l'État qui nous ont un peu laissés dans l'embarras.
Mais justement, là se pose la question du coût du démantèlement des installations.
Savoir si vraiment on maîtrise ce coût. Je ne sais pas si les provisions sont suffisantes. EDF dit que les provisions sont suffisantes, mais j'en suis pas tellement sûr. Parce que le démantèlement de Brennilis, au départ, il avait été dit que le démantèlement coûterait autant que la construction. Et je crois qu'aujourd'hui, on a dû dépasser de 3, 4, 5 fois ce qui était prévu à l'origine.
Mais l'avenir d'EDF, c'est aussi d'être capable de démanteler les centrales françaises et aussi le parc de centrales en Angleterre qu'elle a acheté il y a quelques années, hein, les vieilles centrales en fin de vie. Donc EDF se positionne avec un savoir-faire de démantèlement, mais qu'elle n'a jamais pratiqué, et qu'elle bute sur un petit réacteur qui est celui de Brennilis.
Oui, tout à fait. Ce qui a été démantelé, c'était relativement facile et peu dangereux par rapport à ce qui va arriver. Lorsque va arriver le démantèlement du réacteur, là, je me pose des questions. Ce cylindre de 4 mètres de diamètre sur 4 mètres de long, fortement irradié à l'heure actuelle, ce n'est pas tellement pour l'extérieur. Je pense que l'enceinte étanche est suffisante pour assurer la sécurité par rapport à la population, mais ce sont les ouvriers qui vont travailler sur le réacteur. Et là, j'aimerais bien avoir, avant que ça commence, le détail de l'ouverture de ce cœur, parce qu'il faudrait bien l'ouvrir par quelque part.
Donc là, il y a eu une enquête publique qui a demandé à arrêter le démantèlement. Vous pensez que c'était une bonne chose ?
Oui, parce que cela a obligé, je pense, EDF à réfléchir plus fortement sur les sécurités à prendre. De ce côté, il faut remercier, je pense, tous les écologistes et antinucléaires qui ont peut-être freiné le démantèlement, mais qui, d'un autre côté, ont obligé à avoir beaucoup plus de rigueur dans ce démantèlement, qui doit être un prototype mondial, ne l'oublions pas. Donc on a intérêt à bien le faire. Maintenant, la robotique, est-ce que la robotique pourra assurer la protection des travailleurs qui vont tourner autour de ce cœur ? Je ne sais pas comment ça va se passer. Je me pose la question, en fait. Oui, voilà.
Alors, on sait fabriquer des centrales, hein, des belles centrales nucléaires, mais a priori, on ne sait pas vraiment les démanteler. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui ici à Brennilis.
Donc, Chantal Cunier, je milite au sein de Sortir du nucléaire Cornouailles avec Marie-Nicolas.
Effectivement, ce démantèlement s'allonge, pose problème.
Ça fait 25 ans, c'est ça, que le démantèlement a démarré pour un hypothétique retour à l'herbe. C'est poétique, hein, retour à l'herbe.
Je pense qu'il faut plutôt parler de retour à l'herbe contaminée, car on sait que les sous-sols sont fortement contaminés et qu'ils n'arriveront pas à enlever cette contamination.
Le principal souci qu'on a, c'est que ce travail de démantèlement qui reste à faire est celui qui est le plus difficile. Et nous, notre principal souci, c'est les travailleurs qui vont faire le travail, parce que même les robots, ils peuvent tomber en panne. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets ? Est-ce qu'on va les imposer à d'autres dans la région ? Notamment, donc, on nous parle du budget.
Du budget, dans l'Ain, ouais,
c'est ça. On nous parle de la création d'un centre qui s'appelle ICEDA, qui doit normalement se créer et s'ouvrir, pour lequel nous avons fait recours, parce qu'elle ne dit pas, on ne dit pas exactement ce que sera ICEDA. Et ça se trouve au bord du Rhône, dans une zone sismique, avec donc des déchets qui seront radioactifs. Donc là, on a aussi une inquiétude. On ne veut pas céder plus loin l'autre problème qu'on a ici en Bretagne.
Donc là, on met à mal vraiment la politique nucléaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de démanteler correctement une centrale aujourd'hui.
Ils ne l'ont pas du tout prévu quand ils ont construit les centrales nucléaires. Ils ont toujours eu ce discours de dire « mais la science apportera des solutions, la science apportera des problèmes ». Et 50 ans, on est toujours dans la même situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. La radioactivité, ben, il faut attendre. Alors, des années, des centaines d'années, voire des milliers d'années, voire des millions d'années pour certains éléments qu'on a créés.
La France peut-elle se passer du nucléaire ?
Elle pourrait éventuellement se passer du nucléaire.
Jean-Marc Sylvestre.
À condition d'accepter de s'éclairer à la bougie, d'arrêter ses usines, de revenir au Moyen-Âge.
Jean-Christophe Couty, vous êtes directeur de la centrale de Brennilis et en charge donc du démantèlement, c'est ça?
C'est exact.
Donc déjà une première chose, je suis quand même assez déçu de ne pas avoir pu visiter cette centrale. Il y avait des visites au public et des visites à la presse. Puis bon, malgré mes demandes insistantes, je n'ai pas pu profiter de ces visites. Alors pourquoi?
Alors vous faites allusion effectivement donc à cette semaine de l'industrie. Je pense que malheureusement, vous concernant, il y a sans doute eu un oubli. Et de fait, vous n'avez pas été appelé pour participer à ce lundi réservé à la presse. Et de fait, j'en suis désolé.
J'imagine. Écoutez, nous aussi, parce qu'on aurait aimé aussi pouvoir approfondir notre recherche et pouvoir satisfaire votre PDG, Henri Proglio, donc, qui prône une transparence totale et dit qu'elle est due. Elle est due aux citoyens, donc c'est raté pour cette fois, je dirais, mais bon.
Mais ce n'est peut-être que partie remise, parce que, comme je vous le dis, vous avez été nombreux au niveau des médias à vouloir couvrir cet événement. Je pense que, bon, voilà, et on a eu là, avec vous, un raté. Ce que je vous propose, c'est effectivement, lors d'une prochaine visite, de vous joindre et de couvrir cet événement.
Merci beaucoup.
C'était un raté, c'est tout. Merci, c'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à Michel Marzin, Gérard Borvon, Olivier Herry, Bernadette Lalouette et Chantal Cunier. 30 avril, des marches pour la transparence sur le nucléaire auront lieu un peu partout en France. À Paris, ce sera à partir de 15h au départ de la place de la Bastille. Et puis surtout, le grand événement à venir ce lundi, c'est le procès de DSK. DSK, c'est exquis devant le tribunal des condamnés d'avance. Lundi 2 mai à 20h, il est conseillé de réserver auprès du théâtre de Jazet au 01 48 87 52 55. 01 48 87 52 55. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. À la base, j'y suis. À la technique, aujourd'hui, Michel Bézikian et Élise Christophe, Koye Nguyen et Franck Adhérère ont réalisé cette émission. Ainsi, c'est Agnès Lebot. Et Marina Tuyaz attend vos messages sur le répondeur de la base, j'y suis. Au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve lundi à 15h pour la base, j'y suis. Nous partons pour le Japon, Fukushima, Hiroshima. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
En Syrie, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des milliers de manifestants qui marchaient sur Deraa, l'un des foyers de la contestation. Il y aurait des dizaines de blessés et au moins 7 morts, selon des militants des droits de l'homme sur place. Dans tout le pays, ils sont des dizaines de milliers à manifester malgré l'interdiction et les menaces des autorités à Damas, à Homs dans le centre ou encore à Banias sur la côte. La jeunesse avait appelé à un vendredi de la colère à la sortie de la prière hebdomadaire. Au Yémen, également, les habitants sont descendus en grand nombre dans les rues de la capitale Sanaa pour exiger le départ immédiat du président Ali Abdallah Saleh. Les manifestants pro-Saleh se sont également rassemblés. Claude Guéant confirme le nombre de 6 Français tués dans l'attentat de Marrakech hier. Le ministre de l'Intérieur indique également que 7 autres ont été blessés. 8 policiers français des services antiterroristes et de la police technique et scientifique sont arrivés au Maroc. Le bilan officiel fait état de 15 morts. L'attentat n'a pas été revendiqué. Dans le sud de l'Égypte, un bus qui traversait le Nil sur un ferry est tombé à l'eau. Selon l'agence officielle MENA, 22 personnes se sont noyées. Le bus transportait des passagers qui se rendaient à des obsèques. En France, jugement clément dans l'affaire de l'Angola Gate. La cour d'appel de Paris n'a pas retenu le chef de trafic d'armes. Les peines de prison des principaux protagonistes passent de 6 ans ferme à 30 mois pour Pierre Falcone, qui devrait bientôt sortir de prison, et 3 ans ferme contre 6 pour Arkady Guédamac. L'ancien ministre de l'Intérieur Charles Pasqua est relaxé de l'accusation de trafic d'influence. Dans le Var, les recherches pour tenter de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès sont restées infructueuses. Le père de famille, soupçonné du meurtre à Nantes de sa femme et de leurs 4 enfants, avait été vu pour la dernière fois le 15 avril à Roquebrune-sur-Argence. Les gendarmes ont notamment exploré 6 points d'eau. Encore une agression par un parent d'élève sur une enseignante. Cette fois, il s'agit d'une institutrice de CM2 à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. La mère d'un élève a frappé violemment la maîtresse au visage, qui a dû être brièvement hospitalisée. Et la mère a été interpellée et placée en garde à vue. Une enquête interne va être ouverte après les révélations de Mediapart sur l'existence de quotas discriminatoires dans le football français. Le président de la Fédération française de football, Fernand Duchossois, se dit confiant. Et le sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Blanc, dit ignorer totalement l'existence de telles pratiques. Une cérémonie chasse l'autre. Après le mariage royal de Kate Middleton et du prince William, qui a rassemblé 1 million de personnes dans les rues de Londres, les yeux du monde vont se tourner dimanche vers Rome pour la béatification du pape Jean-Paul II. Avec son lot de polémiques, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a annoncé sa venue. Il figurera aux côtés de 15 autres chefs d'État du monde entier. Robert Mugabe est interdit de voyage par l'Union européenne et les États-Unis pour cause de violations répétées des droits de l'homme dans son pays. Rappelons que le Vatican ne fait pas partie de l'Union européenne. Et puis après 2 ans d'existence, le Conseil de la création artistique, piloté par le producteur de cinéma Marine Karmitz, est dissous. Nicolas Sarkozy a rendu un vif hommage au travail accompli par les membres de ce conseil, dont la naissance avait été très critiquée par les milieux culturels, car empiétant sur les missions et les crédits du ministère.
Les liaisons heureuses. Colombe Schneck.
Ce samedi sur France Inter, en partenariat avec Le Monde des Livres, 2 grands écrivains. Pierre Flotiot pour Bonjour Anne, chronique d'une amitié chez Actes Sud.
Cette trilogie m'a vraiment laissé dans un état de stupéfaction totale.
Et chez le même éditeur, Anne-Marie Gara, Pense à demain.
Se restitue là aussi une personne, une femme, un être humain, dont la présence est tout à fait bien plus intense qu'à travers une biographie.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h.
France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, vous retrouvez Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous l'avez peut-être suivi, le mariage quand même. Ah, il y en a plein qui disent que non, mais en fait, moi je les ai vus, hein, ils regardaient attentivement. Ben oui, c'était beau, et puis Londres comme ça, pavoisé, et puis surtout avec plein de monde qui acclamait le couple, donc Catherine et William, c'était très beau. Il y avait de la musique aussi à l'église, bien sûr, dans cette magnifique cathédrale de Westminster, et on a entendu pas mal de choses, de la trompette, pas mal, des chœurs, et puis même le London Symphony Orchestra, enfin vraiment c'était très très sérieux, que de la musique anglaise, c'était un choix, il paraît d'ailleurs que le repas qui a suivi c'était aussi que des mets anglais, mais voilà, on fait comme on veut. Alors comme quelquefois vous nous demandez quelles sont les musiques qu'on peut jouer au mariage justement, il y a un coffret qui est paru, 3 CD, ça s'appelle Best Wedding, avec 50 pièces qu'on peut éventuellement jouer à son mariage ou à celui des autres. Alors pour commencer, voici de Jeremiah Clarke, un fameux trumpet voluntary, si on veut garder l'accent à peu près. Et un voluntary, c'est une pièce pour orgue et quelquefois pour instrument avant, en usage en Angleterre à partir du XVIe siècle, exécuté donc à volonté durant les cérémonies religieuses, et souvent improvisé d'ailleurs. Et ce genre a été cultivé par Purcell et Handel. Et très souvent, on a dit que celui qu'on va entendre, celui de Clarke, était de Purcell. Ben non, c'est de Jeremiah Clarke. Thank you. Sans peur et sans reproche, Maurice André à la trompette et Jane Parker Smith à l'orgue Trompette Voluntary de Jeremiah Clarke qui ouvre ce coffret de trois disques que je peux vous recommander chez EMI Classics pour des circonstances de mariage.